Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Avec une température moyenne de 14 degrés, l'année 2018 a été la plus chaude enregistrée en France depuis le début des relevés météorologiques en 1900. Alors que l'on vient de fêter une nouvelle fois Noël au balcon, des citoyens s'alarment de la passivité des pouvoirs publics. En effet, le 18 décembre dernier, quatre associations ont entamé un recours en justice contre l'État pour inaction face au changement climatique. Une semaine plus tard, la pétition accompagnant leur démarche, baptisée l'affaire du siècle, a recueilli plus de 1,8 million de signatures, un record. Prochaine étape, en cas de réponse insatisfaisante des autorités, le dépôt du recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris, et puis s'en suivront alors plusieurs mois de procédure. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes réalisateur, écrivain, militant écologiste, cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Colibri, puis vous aviez co-réalisé avec Mélanie Laurent Demain en 2015, et puis Cette année après-demain, et puis vous êtes également auteur d'un petit manuel de résistance contemporaine. En quelques jours, cette pétition citoyenne, l'affaire du siècle, a récolté 1,8 million de signatures, je le disais, devenant la pétition la plus signée en France, devant celle, on s'en souvient, de la loi travail qui avait rassemblé 1,3 million de signatures. Vous avez été étonné par ce succès? Et la vitesse, la fulgurance du succès?
Oui, bon, on pensait pas que ça irait aussi vite. Mais on était un certain nombre à imaginer qu'en mettant en place une stratégie comme celle qu'on a mise en œuvre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à la fois des youtubeurs, à la fois des artistes, à la fois des ONG qui aillent chercher leur communauté respective sur un sujet qui est de plus en plus populaire, ou en tout cas de plus en qui concerne de plus en plus de monde, ça pouvait marcher très fort, et ça s'est confirmé.
Ça concerne évidemment tout le monde, mais c'était pas forcément une préoccupation majeure pour les Français quand on regardait les enquêtes d'opinion jusqu'ici. C'était assez relativement derrière la question de la sécurité, du chômage, du pouvoir d'achat. Vous pensez que c'est en train de changer, ça?
Ben, il y a un mois et demi, il y a eu un entretien avec notamment Brice Teinturier d'Ipsos, qui disait déjà ça, que le changement climatique était en train de devenir l'une des préoccupations principales des Français avec pouvoir d'achat et emploi. Donc oui, je crois que ça change.
Et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça change? Pourquoi cette prise de conscience maintenant? Ça fait longtemps qu'évidemment cette question du dérèglement climatique est là. Pourquoi maintenant?
En France, je pense que c'est à cause de cet été. Parce qu'on commence à voir les phénomènes climatiques se manifester dans nos vies. Et nous, les êtres humains, on a tendance à réagir quand on est au pied du mur, quand on est confronté à ces événements dans notre vie quotidienne. Donc là, les sécheresses, les incendies catastrophiques, les médias aussi qui commencent à jouer vraiment leur rôle. Vous êtes en train de le faire ce matin, un certain nombre de journaux.
On le fait depuis des années. Mais là, c'est vrai.
Moi, je trouve que ça s'est intensifié.
Vous parlez de cet été, il y a quelque chose qui a changé, c'est que ça devient accessible à nos sens aujourd'hui.
Ben oui, absolument.
On le touche du doigt.
On est comme ça. Enfin, je veux dire, on a besoin de vivre les expériences tangibles de ce changement climatique pour pouvoir y réagir.
On va revenir évidemment sur cette affaire du siècle pour comprendre exactement ce qu'il y a derrière cette démarche. Mais d'abord, la réponse du ministre de la Transition écologique dans les colonnes du Parisien cette semaine. Il a dit, je le cite, « Ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi. » Comment est-ce que vous avez pris cette réponse?
Bon, c'est une feinte de non-recevoir. C'est-à-dire que on n'est pas complètement stupide. On sait bien que c'est pas dans les tribunaux qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est même pas capable d'appliquer ses propres lois. Il y a un certain nombre de directives européennes qui ont été traduites dans le droit français, qui imposent théoriquement à notre pays de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 14% d'ici à 2020, de réduire de 20% notre consommation d'énergie et d'augmenter de 23% la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, comme vous le dites, ça fait des années et des années qu'un certain nombre de militants, d'ONG, de journalistes se mobilisent sur cette question-là, et le gouvernement ne fait toujours rien. Donc, le fait d'aller devant la justice, c'est une sorte de recours, c'est-à-dire qu'on ne voit plus d'autres solutions. Donc, si Monsieur de Rugy a d'autres idées qui permettraient à la France de respecter sa propre loi d'ici 2020... Mais il n'a qu'à nous les donner, on est tout à fait prêt à les entendre.
Alors très concrètement, cette action, cette affaire du siècle, elle propose d'attaquer l'État en justice pour une action contre la lutte contre le changement climatique. L'idée, c'est de lancer un recours qu'on appelle en carence fautive, qui est une procédure qui vise à sanctionner l'inertie de l'administration publique lorsqu'elle se trouve dans l'obligation d'agir. Dans ce cas concret, dans le cas du dérèglement climatique, quelles sont les carences qui sont reprochées à l'État français?
Théoriquement...
Parce qu'à un moment, il va falloir passer devant les juges, donc on va faire appel au droit.
Absolument. Il y a deux éléments. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées par l'Europe, qui ont été traduites dans le droit français et qui doivent être respectées. Et l'autre chose, c'est que dans la Constitution française et dans le droit européen, la France est supposée protéger ses concitoyens contre un certain nombre de dangers qui peuvent mettre les Français face à des dangers parfois de mort. Donc là, face au changement climatique, on voit que non seulement on va avoir un certain nombre de phénomènes climatiques comme des inondations, comme des incendies qui sont graves, qu'on va avoir des augmentations de la température qui, comme en 2003, pourraient conduire à des canicules qui pourraient provoquer un certain nombre de décès, puisque le rapport du GIEC dit que si on continue sur la trajectoire actuelle, on pourrait aller vers des records de température entre 50 et 55 degrés, même en France. On est face à la possibilité de conflits entre des États pour l'accès à des ressources naturelles, notamment l'eau. On est face à des phénomènes migratoires qui pourraient s'amplifier, qui là aussi pourraient déclencher un certain nombre d'instabilités. Donc l'État a la responsabilité de protéger ses citoyens.
La responsabilité et même le devoir, il y est contraint, vous le dites, il y a effectivement un certain nombre de lois, par exemple un plafond qui a été fixé par décret en 2015, plafond des émissions de gaz à effet de serre, il y a effectivement ces objectifs de 2020 au titre de la directive européenne de 2012, donc il est contraint par la loi et il est contraint aussi par ses propre constitution également et par un certain nombre de textes dans le droit international. Donc ça veut dire que si on suit la logique purement judiciaire, la logique du droit, l'État va être condamné.
Absolument, et c'est ce qui s'est passé déjà dans d'autres pays. On s'est notamment appuyé sur la démarche qui a été menée aux Pays-Bas, où l'État a été condamné en 2015 à réduire de 25% ses émissions d'ici à 2020. L'État a fait appel, ce jugement a été confirmé en 2018. Donc aujourd'hui, les partis politiques au pouvoir, la coalition au pouvoir aux Pays-Bas, a lancé une espèce de branle-bas de combat pour mettre en œuvre une nouvelle législation qui diminuerait les émissions de gaz à effet de serre de 95% d'ici à 2050. Et ça serait l'une des lois les plus ambitieuses qui existent dans un État européen.
Pour être tout à fait complet, l'État aujourd'hui s'est pourvu en cassation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore au bout de l'histoire judiciaire dans ce cas que vous évoquez du Pays-Bas, qu'on appelle le cas Urgenda du nom de l'ONG, effectivement, qui a poursuivi.
Même si c'est pourvu en cassation, en tout cas, la coalition au pouvoir a, à mon avis, anticipé le fait que le jugement serait certainement le même en troisième instance et a commencé à mettre en œuvre un certain nombre de changements.
C'est un vrai changement, ça, de voir ce droit, cette justice débarquer dans cette question du dérèglement climatique. Alors, il y a un précédent en France qui est le maire écologiste de la ville de Grande-Synthe, Damien Carême, qui a déposé un recours pour une action climatique contre l'État le 20 novembre dernier. Donc, l'État dispose de 2 mois, donc, jusqu'au 20 janvier, hein, c'est dans 3 semaines pour répondre. Mais ça veut dire que ce genre de contentieux climatique, il est en train de s'imposer en France. Ça fait un moment qu'on le voit un peu partout dans le monde. Il y a un rapport de 2017 des Nations Unies qui disait qu'il y avait 800 ou 900, je ne sais plus, contentieux climatiques aujourd'hui dans le monde. C'est un changement, ça, majeur.
Mais je pense encore une fois que c'est une espèce de dernier recours. C'est-à-dire qu'on ne voit plus quoi faire d'autre, hormis de la désobéissance civile ou du rapport de force dans la rue, comme ce qu'est en train de faire par exemple le mouvement Extinction Rebellion qui est parti d'Angleterre et qui s'est déjà répandu dans un certain nombre de pays. Et il y a des recours face à des États ou face à des collectivités, mais il y a aussi des recours face à des entreprises. On a vu en France une douzaine de villes qui ont entamé une pré-procédure judiciaire contre Total. Il y a des villes aux États-Unis, notamment New York, qui a entamé une procédure contre Exxon. À mon avis, dans les années qui viennent, ça va se multiplier pour mettre la pression au maximum sur et les États et les entreprises.
Mais Cyril Dion, le jaillissement du droit dans ce domaine de l'environnement peut conférer, on le voit quand même, au juge un nouveau genre de pouvoir, celui d'influencer, celui de provoquer l'écriture de lois. On l'a vu dans le cas Urgenda et ça sera peut-être aussi le cas ici en France. Or, nos démocraties sont quand même fondées sur un principe de séparation des pouvoirs. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi au fait que des juges peuvent effectivement forcer la main aux législateurs? Alors, je ne veux pas me faire l'avocat de François de Rugy, qui le disait dans les colonnes du Parisien cette semaine, mais quand même, c'est quelque chose qui doit nous forcer à penser le régime dans lequel on vit, et il y a peut-être des évolutions à penser dans nos systèmes démocratiques.
Mais ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on en est arrivé à des procédures judiciaires parce que dans notre système démocratique, on manque d'espace de concertation. Là, on voit dans une autre crise qui est celle des Gilets jaunes, où là, il y a plutôt une aspiration à une forme de justice sociale, des revendications pour aller vers le référendum d'initiative citoyenne. Moi, c'est quelque chose...
Vous y êtes favorable ?
Ah oui, bah moi j'y suis favorable. J'en ai parlé, je crois, même dans les matins de France Culture le 8 décembre. J'en avais parlé dans la tribune que j'avais faite pour Libération avant la marche pour le climat, dans ces politiques. On avait fait un programme, une sorte de programme alternatif avec Colibri en 2012, où on parlait déjà du référendum d'initiative citoyenne comme une mesure parmi d'autres.
Mais vous pensez que c'est un bon outil pour enclencher la transition écologique ? Imaginez qu'on met en place un référendum d'initiative citoyenne sur la fiscalité verte, sur la taxe carbone par exemple. Vous pensez franchement que les citoyens français vont voter favorablement pour la taxe carbone ?
Ben, là, ce qui se passe, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on regarde comment marche le référendum d'initiative citoyenne en Suisse, il faut un quorum de citoyens qui puissent s'accorder sur une proposition qui ensuite va devoir être prise en charge par le Parlement et donner lieu à une votation, donc à un référendum. Si ce mécanisme existait en France, ce qu'on vient de faire là, avec l'affaire du siècle, aurait certainement donné lieu à un référendum plus large. Et ensuite, le but, c'est d'avoir des éléments de pédagogie et des propositions concrètes sur la mise en œuvre de ça. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on oppose les choses. Ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes, c'est que si effectivement on veut entamer la transition écologique en commençant par taxer les personnes qui sont les plus fragiles, qui ont déjà du mal à faire leur plein, pour ensuite essayer de faire en sorte que les gens prennent moins leur voiture sans leur donner les moyens d'avoir une alternative, c'est-à-dire sans avoir construit une réponse structurelle type transport en commun, type des trains dans le milieu périurbain ou rural, ben évidemment ça peut pas marcher.
Mais on oppose les choses parce qu'elles s'opposent, Cyril Dion. Il y a quelques semaines, effectivement, au début du mouvement des Gilets jaunes, Nicolas Hulot avait appelé à ce qu'on arrête d'opposer fin du mois et fin du monde, pour dire qu'il fallait trouver les moyens, effectivement, d'articuler, comme vous le dites, la question de l'urgence sociale et celle de l'urgence climatique. C'est une opposition à laquelle, évidemment, on a envie d'échapper, mais tout ça en théorie. Mais est-ce que c'est vraiment possible sur le terrain ? Concrètement, si on regarde les choses, ce qui s'est passé avec la taxe carbone, on se préoccupe de la fin du monde et donc on augmente le prix du pétrole pour réduire sa consommation, mais ça a un impact direct sur la fin du mois des plus modestes.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est-à-dire qu'il faut pas commencer, et puis là, en l'occurrence, la mesure qui avait été prise est ridicule. Aligner la fiscalité du diesel et de l'essence pour avoir un véritable impact sur l'utilisation d'énergie fossile, c'est absolument pas suffisant. Aujourd'hui, on aurait besoin de taxer le fuel qui va servir au transport aérien, au transport maritime. On aurait besoin de taxer les plus grandes entreprises polluantes. Quand on regarde le classement des 20 plus grandes entreprises qui polluent sur la planète, c'est essentiellement des pétroliers ou des compagnies qui utilisent du charbon. Donc on aurait besoin d'aller taxer ces personnes-là, enfin, ou ces entreprises-là en premier, et d'utiliser cet argent pour mettre en place, là encore, des réponses structurelles. Faire en sorte, encore une fois, qu'on puisse se déplacer autrement, avec des moyens moins polluants. Faire en sorte que des personnes qui aujourd'hui sont dans la précarité énergétique et qui payent parfois plus cher de factures d'énergie que de loyers, puissent faire isoler leur logement et que là, on puisse diminuer la consommation d'énergie, diminuer la dépendance à la voiture. Mais ça a besoin de s'organiser collectivement. Ça peut pas se faire avec des mesures à la sauvette comme ça, où hop, on fait payer les gens plus cher leur plein d'essence et on n'organise absolument
pas
la transition.
On ne peut pas faire échapper aux plus défavorisés l'effort. Il va falloir aussi qu'ils portent un certain effort dans cette transition écologique. Si les plus défavorisés n'ont pas peur de la fin du monde, c'est qu'ils ont déjà une expérience quotidienne de l'apocalypse et de la fin du monde, en tout cas de leur propre monde. Il y a le philosophe Michael Fossel qui écrivait récemment dans Libération un papier extrêmement intéressant dans lequel il disait, je le cite, « Les alarmes sur l'imminence de la fin du monde sont louables, mais elles ne sont audibles que pour ceux qui ont déjà le sentiment de faire quelque chose de socialement sensé. Ça sera pas facile de convaincre les plus défavorisés qu'ils doivent aussi faire davantage d'efforts pour sauver le monde et laisser leur propre monde s'effondrer. Comment les convaincre ?
Mais en fait, ce que je comprends pas dans ce débat, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait d'abord convaincre les plus défavorisés ?
Aussi, pas d'abord, aussi.
Non mais, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas déjà convaincre les plus favorisés de faire tous les efforts qu'ils peuvent ? Or, en l'occurrence, si on regarde les chiffres, c'est aujourd'hui les personnes les plus riches qui polluent le plus, qui émettent le plus de gaz à effet de serre, mais de façon extraordinairement large. Hervé Kempf avait écrit un livre sur la question il y a quelques années. Les 10% les plus favorisés sont responsables de la grande majorité des émissions. Commençons par ces personnes-là.
Ensuite, on verra pour les défavorisés.
Ensuite, on verra avec les classes moyennes, avec ceux qui peuvent déjà le faire. Et ceux qui sont les plus défavorisés devraient être ceux qui bénéficient le plus de cette solidarité-là.
Début décembre, Cyril Dion, vous avez signé une tribune dans Libération dans laquelle vous appeliez les Gilets jaunes à marcher pour le climat pour la journée du 8 décembre. Et vous écriviez, je vous cite, « La bonne nouvelle, c'est que la cause de la destruction de l'environnement et du réchauffement et la cause des inégalités est la même. C'est un système qui cherche du profit, un maximum, le plus vite possible et qui concentre les richesses au sommet. On a besoin de transformer ce système et on a une chance historique de le faire ensemble. Pour changer le système, il faut deux choses. Un, il faut faire tomber le système existant. Et deux, il faut avoir un système de remplacement. Or, pour les deux choses, pour ces deux points, on n'a pas de solution. Le système capitaliste, il a beau avoir des défauts, il a prouvé quand même une certaine résistance, ce qui explique aussi sa longévité. Et le modèle qu'il remplacera, il reste à inventer.
C'est sur ces deux aspects qu'on essaie de travailler. C'est-à-dire que quand on a fait Demain, par exemple, et encore plus dans le livre de Demain, on essayait de commencer à poser des bases de ce que pourrait être un système différent. À la fois dans son modèle économique, et là moi je m'occupe d'une collection par exemple qui s'appelle Le Domaine du Possible chez Actes Sud, où on a publié un ouvrage qui s'appelle L'économie symbiotique, qui est une proposition qui me semble être aujourd'hui l'une des plus abouties sur la réinvention de notre modèle économique, qui permet de développer des activités économiques qui ont une fonction régénératrice des écosystèmes à la fois sociaux et naturels. D'autres façons de faire de l'agriculture, d'autres façons de produire de l'énergie, d'autres façons de créer de la monnaie, justement de ne plus dépendre de la création monétaire par la dette, d'autres façons de faire de la démocratie, on a parlé là du référendum d'initiative citoyenne, mais on pourrait parler du tirage au sort, on pourrait parler de tout un tas de mécanismes de démocratie directe qui pourraient s'allier aux mécanismes de démocratie représentative, d'autres modèles éducatifs, tout ça est en train de monter, et parallèlement il y a un rapport de force qui est en train de s'engager, pour essayer d'acculer un certain nombre de tenants du système actuel, à la fois politique et économique, pour les forcer à adopter un certain nombre de ces mesures, ou alors à être remplacés par d'autres mouvements politiques qui les porteraient.
Pour sortir justement de ce système, en l'occurrence de ce système capitaliste, il faut aussi sortir d'un mythe qu'on a forgé depuis longtemps, qui est celui de la croissance. Il y a beaucoup d'écologistes qui disent qu'il faut arrêter avec cette sacro-sainte croissance. Mais pour le moment, personne ne s'y est hasardé réellement. La croissance, ça reste la pierre angulaire de toute action politique. Sans croissance, on ne peut rien faire. C'est en tout cas ce que nous disent la grande majorité de nos responsables politiques. Comment échapper à cette sacro-sainte croissance ?
Là, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés. La prospérité sans croissance de Tim Jackson a été une tentative pour ça. Là encore, l'économie symbiotique propose aussi de sortir de cette croissance matérielle qui nous demande d'aller détruire des ressources naturelles pour créer de la valeur et ensuite créer des déchets, pour déplacer nos activités vers des activités, encore une fois, qui sont régénératrices. Ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire changer les mécanismes de la création monétaire, c'est fondamental pour ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance aujourd'hui ? Parce que quand on crée de la monnaie par la dette, on a besoin, pour maintenir une masse monétaire suffisante en circulation, de refaire sans cesse des crédits. Donc, de doper la production et la consommation.
Certes, mais parce que aussi la croissance, c'est la condition de l'émancipation de l'individu. C'est comme ça que, en fait, le contrat s'est fait depuis le début du capitalisme.
C'est pas simplement l'émancipation de l'individu. C'est aussi une idéologie qui estime que on a besoin sans cesse d'engager de la production et de la consommation pour pouvoir, encore une fois, maintenir une masse monétaire en circulation. C'est ce que nous expliquait Bernard Lieta, qui est l'un des créateurs de l'euro. Et sans remettre en question cette pierre angulaire de notre système économique, on ne pourra pas se libérer de la croissance.
On va poursuivre nos échanges dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes. Il est 8h, vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Retour avec notre invité, Cyril Dion, écrivain, réalisateur, militant, écologiste, qui a co-réalisé Demain, mais aussi Après-demain, qui était sorti cette année, mais aussi auteur du petit manuel de résistance contemporaine qui est paru chez Actes Sud. Je voudrais qu'on parle peut-être un peu de la COP24, Cyril Dion. La Pologne a accueilli récemment la COP24. Elle s'est achevée le 15 décembre dernier avec un texte arraché très difficilement compte tenu de la mauvaise volonté d'un certain nombre d'États. Avant d'en parler, vous demandez peut-être un bilan de cette COP24, je propose d'écouter une jeune adolescente qui a beaucoup marqué, une jeune adolescente suédoise qui a pris la parole justement lors de ce sommet. C'est Greta Thunberg.
Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous concentrer sur l'équité. Si les solutions sont si impossibles à trouver dans ce système, peut-être que nous devrions changer de système. Nous ne sommes pas venus vous supplier de faire quelque chose. Vous nous avez ignorés dans le passé et vous nous ignorerez encore. Nous n'avons plus d'excuses et nous n'avons plus de temps. Nous sommes venus pour vous dire que le changement arrive, que vous le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple.
Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 15 ans, déjà très active dans la défense de l'environnement, qui a décidé de ne plus manger de viande, qui a convaincu ses parents d'installer des panneaux solaires et de cultiver un potager. Elle s'était faite connaître lorsqu'elle a commencé à manifester seule devant le Parlement suédois chaque semaine. Peut-être une réaction, Cyril Dion, sur cette jeune fille, toute jeune fille qu'on vient d'entendre, et puis ensuite on passera au bilan de la COP24.
Ben moi j'adore ça, j'adore entendre la génération qui va vivre tous ces bouleversements, dire à ses aînés on n'est pas venu vous supplier, on n'est pas venu vous demander de changer vos lois parce qu'on sait que vous allez nous ignorer, mais on est en train de vous dire que le changement arrive, c'est super, c'est ce dont on a besoin. Mais c'est un peu dramatique, c'est-à-dire que ça va boucler, je pense, avec ce dont on va parler juste après, c'est-à-dire que c'est des réunions diplomatiques qui continuent à être, à se tenir dans un état d'esprit qui ne remet pas en question un certain nombre de dogmes et de fonctionnements. Et les enfants ou les adolescents ont cette capacité de s'extraire justement de cette vision des choses qui est un peu enfermée, un peu culturellement bloquée, pour nous remettre les choses en perspective de façon très simple, très très simple, en disant bah si ce système-là marche pas, peut-être qu'il faut en changer.
Sauf qu'on peut s'interroger sur l'effet de ce type de parole. Je me souviens qu'au sommet de Rio, il y avait eu aussi une jeune adolescente déjà, 1992, qui avait pris la parole exactement pareil. Sauf que ça n'a rien changé. En 25 ans, ça n'a rien changé sur la nature, sur la capacité des grands États à trouver des solutions dans ce type de sommet.
Mais une seule adolescente ne peut pas tout changer. En revanche, ça a un impact culturel très fort. Quand on voit le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo, quand on voit ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de personnes qui aujourd'hui ont pris conscience que le changement climatique était un danger majeur, ces 2 millions de personnes bientôt qui ont signé l'affaire du siècle, ces personnes qui, aux instituts de sondage, commencent à dire « bah oui, le changement climatique, c'est notre préoccupation numéro un, c'est pas arrivé par hasard ». Ça, ce changement culturel, il arrive aussi par ces interventions, et notamment des adolescents.
Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui a été extrêmement frappant dans cette COP24 en Pologne, c'est que, je me souviens de la COP21, peut-être que vous y étiez, en tout cas vous l'avez forcément suivi. Et tout le monde, Obama était là, Poutine était là, François Hollande était là, sur cette COP24, personne. Trump, évidemment, retiré de l'accord de Paris, n'était pas là, Poutine n'était pas là, Emmanuel Macron n'était pas là. On voit bien, et ces absences, elles illustrent parfaitement une forme de désengagement de nos responsables politiques. Il y a 3 ans encore, en 2015, lors de l'accord de Paris, on s'était dit ça y est, alors même si l'accord n'était pas parfait, mais ça y est, il y a une vraie volonté politique. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est revenu en arrière.
Oui, parce que au fur et à mesure que les difficultés arrivent, les migrations, les difficultés économiques, les inégalités qui explosent, les gouvernements vont avoir tendance à se replier sur des positions un peu populistes pour essayer de parer aux dangers les plus prégnants. C'est ce dont on parlait tout à l'heure entre fin de mois et fin du monde, en se disant bon, le changement climatique, on verra plus tard. Pour l'instant, on va essayer de d'éteindre la grogne sociale. Pour l'instant, on va essayer de traiter la question migratoire. Pour l'instant, on va essayer de relancer la croissance pour créer des emplois. Et donc, le climat passe à nouveau, le climat et l'effondrement de la biodiversité, dont on parle beaucoup moins, passe en deuxième ou en troisième rideau. C'est la raison pour laquelle ce que disait Greta à l'instant me paraît tout à fait vrai. C'est les citoyens qui vont faire la différence. C'est ceux qui sont en train de mettre en œuvre des actions de désobéissance civile. C'est ceux qui sont en train d'attaquer les États en justice ou les grandes entreprises et les grands pétroliers.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter ces grands sommets? Il faut arrêter ces COP?
C'est pas qu'il faut les arrêter. De toute façon, On pourrait se dire aussi...
Si ça sert à rien, ça coûte beaucoup d'argent, ça dépense beaucoup d'énergie, ça émet énormément d'émissions de gaz à effet de serre, arrêtons.
Non mais la problématique démocratique, elle est plus large que ça. On pourrait se dire, puisque de toute façon, les responsables politiques, les gouvernements, les parlements ne sont pas capables de faire quoi que ce soit pour les vrais sujets qui comptent, arrêtons les gouvernements, faisons comme en Belgique, où il n'y a pas de gouvernement, et puis il y a juste les fonctionnaires qui gèrent les affaires courantes. On a un problème démocratique de fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace dans lequel on est capable de se mettre d'accord. Il y a quelques années, j'ai un ami qui disait, finalement, le plus grand challenge de l'humanité au XXIe siècle, c'est pas le changement climatique, c'est pas l'effondrement de la biodiversité, c'est pas la crise économique, c'est pas la fin dans le monde, c'est notre capacité à créer des organisations qui vont être capables de répondre à toutes ces questions. Donc finalement, le plus grand challenge du XXIe siècle, c'est l'intelligence collective. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué de désenchasser nos pays de ce système capitaliste, libéral, dopé à la croissance, dopé aux énergies fossiles, qu'on a besoin de se mettre ensemble et d'organiser une coopération entre les acteurs. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? On en a parlé tout à l'heure, le système d'augmenter le prix de l'essence. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui fait des milliers de kilomètres par an pour aller à son travail, parce que l'urbanisme s'est constitué d'une certaine façon et que les prix des logements dans les grandes villes sont trop élevés, donc on est obligé d'aller habiter loin, donc on est obligé ensuite de faire beaucoup de kilomètres entre son habitation et son travail, et qu'il n'y a pas de circuit de train pour y aller, ou que les circuits de train sont bondés, mais on est obligé de prendre la voiture. Si on est obligé de se chauffer dans des logements, encore une fois, qui sont pas très chers, qui ont été construits avec des matériaux qui sont pas terribles, donc que c'est des passoires énergétiques, comment est-ce qu'on fait pour, au quotidien, réduire notre consommation d'énergie fossile? On ne peut pas y parvenir. Donc on a besoin, à la fois, que les pouvoirs publics prennent un certain nombre de mesures pour transformer la fiscalité, pour réorienter les subventions. On a besoin que des entreprises s'engagent à fournir de l'électricité renouvelable dans de bonnes conditions, plutôt que de nous fournir de l'électricité seulement nucléaire ou alimentée au pétrole ou au charbon. On a besoin qu'un certain nombre de syndicats de copropriété travaillent main dans la main avec les propriétaires pour progressivement faire que les logements soient isolés. On a besoin que les maires s'engagent à transformer l'urbanisme. C'est vraiment une transformation profonde de nos sociétés qui peut pas se faire de façon sectorielle ou sur des mesures isolées.
Vous vous souvenez évidemment, Cyril Dion, de septembre dernier, la démission assez fracassante de Nicolas Hulot au micro de France Inter. Cette démission, elle avait révélé l'impuissance de nos gouvernants à enclencher la transition écologique. Alors évidemment, il n'est pas le seul responsable. Il faut quand même penser que, par exemple, en France, il y a eu 15 ministres de l'Environnement en moins de 20 ans et qu'on ne peut pas dire que le bilan soit très reluisant. Et il avait dit, c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Voilà ce qu'il avait dit, Nicolas Hulot. Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, l'échec de nos gouvernants en matière de politique écologique est lié à notre système démocratique lui-même et pas au manque de volonté? Est-ce que l'écologie politique finalement serait incompatible avec nos démocraties, en tout cas telles qu'elles sont, telles qu'elles existent aujourd'hui? Et puis, quel serait au fond le bon régime pour enclencher la transition écologique? Essayons de dessiner un peu les contours d'un système politique qui le permettrait.
Je vous donne deux exemples. D'abord un exemple sur est-ce qu'on a un système démocratique qui fonctionne et qui permet de prendre les bonnes décisions. Il y a eu une étude qui a été conduite par l'université de Princeton en 2015 aux États-Unis, qui a étudié plus de 1800 décisions publiques, je crois entre 1981 et 1992, en cherchant à savoir si ces décisions publiques ont été plutôt orientées par la volonté populaire ou par l'élite économique. Dans 80% des cas, elles étaient orientées par l'élite économique. Donc les chercheurs de l'université de Princeton qui ont fait cette étude, donc ils sont pas des gens d'extrême gauche ou des écologistes échevelés, disait, on est en réalité dans un régime qui n'est pas vraiment une démocratie, qui est plutôt une forme d'oligarchie. Cette étude pourrait être transposée à énormément de pays occidentaux qui sont effectivement beaucoup plus soumis à une pression du pouvoir économique, ce que Nicolas Hulot appelait les lobbies, pour prendre un certain nombre de décisions, plutôt que par la véritable volonté des citoyens qui a très peu d'espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, un système où on vote tous les 5 ans, où on vote en plus de façon souvent irrationnelle, plus pour des personnes et plus pour une relation affective, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait théorisé quand on lui avait demandé « mais finalement vous n'avez pas trop de programme » et il disait « ben non, mais il n'y a pas besoin de programme puisque une élection c'est une espèce d'alchimie, de magie qui s'opère entre un homme et le peuple à l'occasion d'une élection. Il y avait eu des expériences aussi aux États-Unis qui montraient que on avait mis des électrodes sur le cerveau de personnes qui regardaient les débats à la télévision, et on voyait que les zones qui étaient activées dans le cerveau étaient beaucoup plus des zones émotionnelles que des zones réflexives. Donc on voit bien que dans cette espèce de théâtre, tous les 5 ans, où par des déclarations fracassantes, par des promesses qu'on ne va pas tenir, par justement des tentatives de créer une relation affective, une histoire d'amour entre un candidat ou une candidate et la population, on évacue toute la dimension programmatique de la politique, c'est-à-dire le projet de société.
Alors c'est quoi le bon régime qui permet justement d'avoir le bon projet de société et surtout de le déployer ? On va prendre un exemple très concret, Cyril Dion. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont évoqué l'hypothèse de la création d'une nouvelle chambre haute entièrement dédiée aux enjeux de long terme. C'est d'ailleurs quelque chose que vous évoquez vous-même dans ce petit manuel de résistance contemporaine, mais aussi dans votre documentaire. Une chambre haute qui s'assurerait que, au fond, chacune des lois votées soit bien respectueuse de la préservation de l'environnement, bien respectueuse du futur des générations à venir. Est-ce que ça, c'est une piste?
C'est une piste. Moi, ce qui me paraît très important, en tout cas, c'est de créer, comme je le disais tout à l'heure, des espaces dans lesquels on puisse réfléchir ensemble aux orientations qu'on veut prendre. Sur les énergies fossiles, c'est David Van Reybrouck qui raconte ça dans Demain. Il y a eu une expérimentation qui a été faite au Texas, donc état pétrolier par excellence, sur la mise en œuvre d'une transition énergétique pour aller vers plus d'énergie renouvelable. On a fait un sondage auprès de la population en leur disant « Est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus sur votre facture d'électricité pour développer les énergies renouvelables ?» Honnêtement, les résultats étaient « Bah non, sûrement pas, on va pas payer plus. » Et puis en plus, on est un État qui produit du pétrole, donc non, certainement pas. Il y a eu un mécanisme de démocratie délibérative qui a permis à des personnes, pendant plusieurs mois, d'être en contact avec des experts, de comprendre en fait quelle était la situation du climat, ce que pouvaient apporter les énergies renouvelables, en termes écologiques mais aussi en termes économiques, de discuter avec des personnes qui avaient des points de vue contradictoires, et à l'issue de ce processus...
On leur reposait la question.
On leur a reposé la question, et l'essentiel des gens disait « Mais oui, on veut plus d'énergie renouvelable. » Aujourd'hui, le Texas est l'État aux États-Unis qui a le plus d'éoliennes. Si on avait essayé d'arriver à ce résultat simplement avec des politiques élus qui sont soumis à des lobbies, on n'y serait jamais parvenu au Texas, où on sait que les élus sont en cheville avec l'industrie pétrolière depuis des années.
Il y a des États, des régimes qui parviennent parfaitement, vous parlez d'énergie renouvelable, qui parviennent parfaitement à imposer justement le développement des énergies renouvelables et sans forcément demander de faire participer les citoyens. La Chine, vous parliez d'énergie renouvelable. La Chine, c'est la championne des énergies renouvelables. Je crois qu'aujourd'hui, 10% de l'énergie en Chine, 10% du mix énergétique, c'est les énergies renouvelables. Quand on regarde sur le niveau mondial, 40% de ce qui est développé chaque année en termes d'énergie renouvelable, ça vient de l'empire du milieu. Est-ce que ça veut dire que, finalement, un régime autoritaire est plus propice à engager la transition écologique ? Et est-ce que ça veut dire qu'à terme, si précisément on ne parvient pas à transformer notre régime, notre démocratie, il y a un risque de glissement vers ce type de régime parce qu'il y a un moment où de toute façon on sera contraint d'engager cette transition écologique.
C'est exactement ça qui va se produire et c'est ça qui se produit en Chine. C'est-à-dire que plus on attend et plus on va être face à des phénomènes extrêmes, plus la réponse qu'on devra donner devra être extrême elle aussi et plus on prendra le risque, exactement comme vous venez de le dire, d'aller vers des régimes autoritaires. En Chine, ils sont en train de mettre en place quelque chose qui s'appelle le crédit social. C'est-à-dire vous avez un certain nombre de points, en gros vous avez 800 points, et vous êtes surveillé toute la journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 180 millions, je crois, de caméras de surveillance en Chine. En 2020, ils veulent en avoir 600 millions. Chacune d'entre elles est reliée à un logiciel de reconnaissance faciale. Et parallèlement à ça, les Chinois utilisent de plus en plus leur smartphone pour tout faire, notamment avec une application qui s'appelle WeChat, qui est une espèce d'hybridation entre Facebook et WhatsApp, avec tout à l'intérieur. L'idée, c'est que à chaque fois que vous avez un comportement, vous allez gagner ou perdre des points. Donc typiquement aujourd'hui à Pékin ou à Shanghai, vous ne pouvez plus acheter une voiture à moteur thermique, ou alors vous êtes sur une liste d'attente de plusieurs années, parce que la pollution de l'air est tellement catastrophique qu'il y a en gros 1,2 million de personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Si demain vous êtes filmé dans un restaurant en train de manger de la viande, ou si simplement vous avez utilisé votre smartphone pour passer commande et aller sur le menu comme je l'ai vu faire en Chine, vous allez perdre des points. A contrario, si vous prenez votre vélo avec un système, là aussi de vélo en libre-service, que vous avez scanné avec un QR code, donc on le sait, là vous allez gagner des points. Ça, c'est Big Brother, c'est 1984.
C'est la dictature verte.
Exactement. Donc c'est pour ça que c'est absolument crucial et urgentissime aujourd'hui qu'on mette en œuvre une transformation démocratique qui nous permette de prendre ensemble ces décisions avant d'être obligé, en tout cas d'être confronté au danger de ce type de régime.
Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Il y a évidemment des partis qui portent ce projet-là, y compris de porter ce projet de transformation démocratique, c'est les partis écologiques. Or, ils n'arrivent pas à se faire une place dans le paysage politique. On le voit en France, mais en réalité, c'est un phénomène qu'on voit partout en Europe. Les écologistes ont participé à énormément de coalitions gouvernementales, mais ils n'ont jamais été en position de gouverner seuls. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est un problème de crédibilité ? Est-ce que vous pensez que c'est la seule manière, précisément, d'enclencher cette révolution écologique ? Que d'avoir un parti vert au pouvoir ?
Je pense que les écologistes, pour l'instant, n'ont jamais réussi à s'imposer politiquement pour la raison qu'on évoquait dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire le fait que le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, pour le moment, ça n'impacte pas notre quotidien de façon dramatique, alors que d'autres réalités, oui. Les réalités économiques, sociales, passent toujours devant. Donc c'est toujours pour ça qu'on va avoir tendance à voter ou pour ça qu'on va avoir tendance à se mobiliser. Et est-ce que c'est la seule solution d'arriver à avoir des partis politiques verts au pouvoir ? Oui et non. La seule solution, c'est qu'on ait une coopération entre les acteurs politiques, les entrepreneurs et la population. Quand on a fait Après-demain, donc, qui est passé sur France 2, qui est toujours en replay d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent le voir, on a été interviewé Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique quand il y était toujours. Et il nous disait, moi, mon problème, c'est que j'ai pas 1 million de personnes dans la rue qui demandent de l'agriculture biologique, qui demandent d'arrêter avec les énergies fossiles ou une taxe sur les transactions financières. Alors qu'il y a certainement beaucoup plus qu'un million de personnes qui aspirent à ça dans leur vie de tous les jours. Donc comment faire pour que cette énergie-là, elle puisse participer à orienter les décisions politiques ? Je raconte toujours cette anecdote qui est elle-même racontée par Naomi Klein dans le film La stratégie du choc, où elle raconte que quand les syndicalistes allaient voir Roosevelt en 37 pour lui demander de transformer la politique sociale au moment du New Deal, Roosevelt à un moment leur aurait dit « Ok, j'ai compris, maintenant allez dans la rue et obligez-moi à le faire ». Cette année-là, il y a eu plus de 4700 grèves dans le pays et des avancées sociales comme jamais. Parce que Roosevelt avait compris que s'il voulait transformer la société, s'il voulait être capable de surmonter le pouvoir des lobbies, le conservatisme de son administration, la difficulté de son parlement à là aussi aller contre l'élite économique, il fallait qu'il puisse s'appuyer sur une majorité de personnes qui poussent dans la rue. Aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, on est en train de lui faire un cadeau. S'il y a 2 millions de personnes bientôt qui ont signé l'affaire du siècle, on lui donne la possibilité d'avoir dans sa manche, quand il va jouer au poker avec les industriels du pétrole et tous les conservatismes, cette force populaire qui peut surpasser, qui peut être une forme de lobbying citoyen.
Pour avoir justement cette force populaire, il faut mener la bataille culturelle. C'est exactement ce que vous dites dans votre petit manuel de résistance contemporaine. Vous dites par exemple qu'il faut proposer de nouveaux récits présentant une vision écologique désirable de l'avenir. Or, si on regarde les choses, ce qu'on constate, c'est que cette guerre culturelle, elle est en train d'être perdue. Les élections de Donald Trump ou d'un Jair Bolsonaro au Brésil en sont une parfaite illustration. Jair Bolsonaro, il a déjà annoncé qu'il allait sortir de l'accord de Paris, qu'il allait supprimer le ministère de l'Environnement. Alors, la forêt amazonienne et les peuples autochtones vont clairement payer le prix fort dans les mois qui viennent. Qu'on le veuille ou non, Cyril Dion, on voit qu'il y a une montée en puissance d'un populo, alors je vais mettre des guillemets, mais un populo-climato-scepticisme, alors qu'il y a quelques années, ce climato-scepticisme, Il avait quasiment disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retour en arrière? Pourquoi ce retour du climato-scepticisme, alors même que les données scientifiques sont quand même assez irréfutables?
En fait, je crois qu'il y a à la fois un climato-scepticisme qui émerge dans un certain nombre de pays et chez un certain nombre de leaders politiques, mais que parallèlement à ça, comme on l'a dit précédemment, il y a une prise de conscience extrêmement large qui se fait chez une bonne partie de la population de l'urgence climatique.
Oui, mais pas aux États-Unis, pas au Brésil, pas...
Mais si, aux États-Unis aussi, si vous allez
non,
discuter...
Non, parce qu'on vote pour des climato-sceptiques.
Mais encore une fois, la société américaine est une société fracturée. Les gens qui ont voté pour Trump ne sont pas la majorité des Américains. Si vous allez parler, par exemple, aux Californiens qui sont confrontés à des incendies de plus en plus violents, ils ont parfaitement conscience de ce qui se passe. Ce qui est sûr, et ce qui était prévisible, et ce qu'on était un certain nombre d'écologistes à dire depuis des années, c'est que les positions vont se durcir de plus en plus. C'est-à-dire que à mesure que les difficultés vont arriver, on va avoir des extrêmes qui mèneront des politiques populistes, anti-immigration, anti-climat, qui défendront les intérêts du pétrole de plus en plus fortes et qui se serviront de la colère populaire et notamment de celle qu'on voit s'exprimer en ce moment dans la rue sur les inégalités pour pouvoir prendre le pouvoir. Et parallèlement à ça, des écologistes de tous bords, à la fois dans des partis politiques, à la fois des militants, à la fois des désobéissants civils, à la fois des élus locaux, qui vont être de plus en plus acculés à la nécessité d'engager des combats, en fait. C'est-à-dire que pour le moment, ce qui fait aussi qu'on entend beaucoup plus les climato-sceptiques ou qu'on entend beaucoup plus les populistes que les écologistes, c'est que culturellement, les écologistes sont très gentils. C'est des bons petits gars et des bonnes petites bonnes femmes.
Mais alors comment on combat le climato-scepticisme? Puisque la science, puisque la connaissance sont impuissants, comment convaincre le climato-scepticisme qu'il a tort et comment gagner cette bataille, bataille culturelle?
Vous disiez qu'on avait déjà perdu la bataille culturelle, mais on a à peine commencé à l'engager.
Alors, j'ai dit qu'on était sur une mauvaise dynamique, on était en train de la perdre et que l'élection de Donald Trump et de Jair Bolsonaro en était l'illustration. Mais j'ai pas dit que c'était définitivement perdu.
Bon, alors ça va. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis qu'on a besoin d'engager une bataille culturelle, c'est qu'on a besoin de construire des récits de l'avenir qui remettent en question la fiction actuelle, qui est la fiction consumériste, capitaliste, qui en substance dit plus on va gagner d'argent, plus on va avoir de croissance économique, plus on va avoir de possessions matérielles et plus on sera heureux. Pour l'instant, c'est la fiction qui continue à dominer la planète.
Donc il faut construire une autre fiction.
Il y a des milliards de personnes qui continuent à avoir envie d'avoir cette vie-là, y compris les personnes qui sont le plus dans la difficulté. Là, quand on voit les personnes qui sont sur les ronds-points, il y en a un certain nombre qui aspirent à pouvoir avoir plus de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer plus, pour pouvoir faire partie de cette société dont on nous a vanté les mérites à travers la publicité et à travers des années de politique basées sur la croissance. Des récits qui réinventent ça, qui remettent ça en question, il y en a extrêmement peu. Nous, on a tâché de faire ça avec Demain et on tâche aujourd'hui, moi je travaille avec un certain nombre d'artistes, de scénaristes, pour développer des films, des romans, des articles dans la presse, mais aussi des histoires d'entrepreneurs qui font autrement, des histoires d'agriculteurs qui font autrement. Mais ça reste très très marginal dans la sphère politique, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment vu aujourd'hui des responsables politiques, des partis, qui proposent un récit alternatif de nos sociétés?
Mais
pas tellement.
Mais peut-être parce que ce récit, en réalité, est encore à construire. Il n'existe pas encore, en réalité.
Aujourd'hui, on en connaît énormément de briques. Quand je parlais tout à l'heure de Demain, on a entamé ce travail et on a finalement mis en forme quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans, où on a une littérature très abondante, encore une fois, sur des expériences agricoles telles que la permaculture, telles que l'agroforesterie, telles que le semi-direct pour les céréaliers, des expériences et des scénarios, par exemple le scénario Négawatt, qui est un scénario de transition énergétique en France, qui montre comment on pourrait réduire de 50 à 60% notre consommation d'énergie, sortir du nucléaire, développer les renouvelables et en 2050 être totalement autonome en énergie renouvelable. Des expériences, encore une fois, de monnaie complémentaire, de monnaie libre qui se développe partout.
Mais alors Cyril Dion, s'il existe ce récit, vous nous dites qu'il y a beaucoup de briques déjà dans ce récit, comment se fait-il qu'il ne séduit pas? Qu'est-ce qui manque? Puisque le récit existe, qu'est-ce qui manque?
Mais il séduit. Enfin, je suis désolé.
Pas la majorité.
Je suis désolé de le dire. Tout le monde a été extraordinairement étonné de voir que Demain avait fait 1 200 000 spectateurs en salle, alors que c'est un documentaire de 2 heures sous-titré qui parle de démocratie et de création monétaire. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont été le voir en salle ont été hyper emballées par cette vision de l'avenir.
Je reformule la question. Pourquoi il ne séduit pas au point d'enclencher l'action collective nécessaire? Est-ce que, par exemple, faisons l'hypothèse que le récit est là, est-ce qu'il ne manque pas celui qui va le porter? Pour prendre des actions collectives, la psychologie collective nous le dit, il faut le plus souvent un leader charismatique. Est-ce que c'est pas ça qui manque?
Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut plein de leaders. C'est-à-dire qu'il faut plein de personnes qui sont porteurs de ce nouveau récit et qui peuvent l'incarner à la fois dans ce qu'ils sont et dans les histoires qu'ils racontent. Moi, je pense pas que le récit ne séduit pas. Je pense que le récit est très peu aujourd'hui développé à la fois par les artistes, à la fois par les journalistes, à la fois par les responsables politiques. Et que quand il l'est, il suscite de l'engouement. On a fait ce film Après-demain, justement parce que toutes les personnes qui ont été voir Demain se sont mises à agir derrière. Mais on peut pas être tout seul, c'est trop peu pour l'instant. Face à de la publicité que vous avez toute la journée, si vous regardez un peu la télévision, vous allez être matraqué systématiquement par le récit actuel. Si vous vous baladez dans la rue ou si vous vous baladez dans le métro, c'est pareil. Si vous vous baladez dans les centres-villes, vous allez voir des boutiques avec les mêmes chaînes partout. On est encore, entre guillemets, une petite guérilla avec des moyens très restreints face à une sorte de rouleau compresseur. Donc, cette guérilla, elle a besoin d'avoir de plus en plus de combattants, j'ai envie de dire, qui portent ces récits-là de façon très puissante.
C'est une vision guerrière, hein, de la chose que vous avez. Non, mais.
On est dans une lutte. Et aujourd'hui, les personnes qu'on a en face de nous sont prêtes à défendre leurs intérêts de façon parfois très violente, dans une violence économique, dans une violence politique, ou même dans une violence militaire. On le voit avec la répression face à des militants écologistes à beaucoup d'endroits du monde.
Cyril Dion, vous le disiez, vous rappeliez donc ce documentaire en 2015, Demain, qui avait rassemblé, vous avez raison de le rappeler, des millions de spectateurs dans les salles, le César du meilleur documentaire en 2016, on y retrouvait un urbaniste travaillant à rendre les villes aux piétons, des anciens juristes reconvertis dans le maraîchage bio, un défenseur des monnaies complémentaires, on y retrouvait aussi bien sûr Pierre Rabhi, figure tutélaire de l'écologie, l'agroécologie française. Depuis, vous avez réalisé un nouveau documentaire, Après-demain, qui, vous nous le rappeliez, est encore visionnable sur le site de France Télé. Quel bilan justement on peut tirer de toutes ces initiatives qu'on avait vues dans Demain? Quelles leçons les citoyens qui se sont lancés dans ces expériences en tirent eux-mêmes?
Ce qu'on a vu en allant enquêter, donc j'ai fait ce film avec une journaliste qui s'appelle Laure Noyla, qui est partie à la rencontre, puisque l'idée c'était que ce ne soit pas nous qui allions enquêter sur notre propre film, ne pouvant pas être jugés partis. C'est que là où ça fonctionne le mieux, c'est justement quand il y a cette coopération entre des élus, des entrepreneurs et des citoyens. Très souvent, ce sont les citoyens qui arrivent avec l'élan, avec les innovations. Ensuite, ils ont besoin, à une certaine étape de leurs initiatives, que des élus puissent instaurer un certain nombre de règles qui facilitent le changement d'échelle de leurs propositions. Ils ont aussi besoin qu'un certain nombre d'entrepreneurs viennent apporter du carburant économique pour que ça aille plus vite, pour que ça se fasse à plus grande envergure. Et très souvent, ça se fait enraciné sur des territoires. On a vu que c'était cette coopération à l'échelle des villes ou des agglomérations ou parfois de territoires ruraux qui avait souvent le plus de chances d'aboutir parce que la paralysie institutionnelle était beaucoup moins forte qu'à l'échelle des États ou de supra-États comme l'Europe.
Donc je comprends deux choses. La première, c'est que ce qui fonctionne, c'est la coopération entre les acteurs. C'est ça finalement la condition de la réussite. Et la deuxième chose, c'est que ce qui fonctionne aussi, c'est le combat local, quand c'est ancré dans les territoires. Mais en faisant primer le local sur le global, Cyril Dion, est-ce qu'il n'y a pas le risque que le local se transforme en localisme et, au fond, une forme de repli sur soi et donc aussi peut-être le rejet de l'autre? Avec le localisme, on n'est jamais très très loin de l'égoïsme, voire carrément de la xénophobie. Faut se méfier aussi.
Évidemment que c'est un risque, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de créer une forme d'hybridation. Dans Demain, on a été filmé un mouvement qui s'appelle BAL, c'est Business Alliance for Local Living Economies. Eux, ils disent, l'objectif, c'est pas qu'on se replie sur nous-mêmes, c'est de créer des millions d'économies locales interconnectées les unes avec les autres. Si on prend l'exemple de l'alimentation, c'est qu'on puisse produire le maximum d'alimentation là où on vit et qu'on puisse échanger nos richesses qui ne peuvent pas être produites. Il y a des schémas aujourd'hui d'alimentation où on voit que 5 à 10% de notre alimentation, ce qu'ils appellent les exceptions Marco Polo, on va toujours les faire venir de l'extérieur. On va toujours faire venir le café, on va toujours faire venir le chocolat, on va toujours faire venir un certain nombre de fruits qu'on peut pas produire. En revanche, faire venir des poulets des Pays-Bas, faire venir des tomates du sud de l'Espagne, ça n'a aucun sens. C'est une aberration. Ce qui se passe aux États-Unis où des aliments font 2500 kilomètres avant d'arriver jusqu'à nos assiettes, on peut pas continuer comme ça.
Cyril Dion, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'ai une dernière question à vous poser. Comment vous faites pour garder la foi? Ça fait à peu près une heure qu'on parle. Je vous assène de mon scepticisme depuis 7h40 et vous avez toujours la foi.
Mais c'est pas que j'ai la foi, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que de continuer à se battre pour un monde dans lequel on aurait envie que nos enfants habitent, dans lequel nous-mêmes on a envie d'habiter. Moi, je fais pas ça parce que je crois qu'on va réussir. Je suis pas particulièrement optimiste parce que je vois que la situation se dégrade. Mais simplement, je peux pas me résigner. Et puis, c'est ça qui donne du sens à ma vie. Et je pense que un nouveau récit qui pourrait remplacer le consumérisme et qui pourrait avoir la force de le remplacer, c'est forcément un récit qui donne plus de sens à notre existence, qui nous donne envie de nous lever chaque matin pour quelque chose qui a de l'intensité et qui a enfin, dans lequel nos valeurs sont en adéquation avec notre comportement.
Donner du sens à sa vie. Merci beaucoup Cyril Dion d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai donc pour les auditeurs Demain qui était sorti en 2015, Après-demain qui est sorti, qu'on peut encore voir, mais aussi le petit manuel de résistance contemporaine qui était paru chez Actes Sud. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.